C'est une très bonne question et je ne sais pas. Comment on l'a dit ? Des exploits ? D'accord. Bah, je sais ce que je pensais, mais je ne voulais pas le dire. Évidemment, avec un nom comme Steve Niles, ce n'est pas vraiment un nom français. Et cet accent n'est pas quelque chose que j'essaie de dire, de faire, mais c'est parce que je suis américain. Peut-être certains, vous me connaissez parce que j'ai passé 10 ans à Champs-Rousses, au centre évangélique, avec Thierry Regnault. On a fait fonctionner un peu le centre évangélique. Et c'est en 99 que j'étais appelé par un groupe de chrétiens à Annecy pour venir former une équipe pour démarrer une nouvelle église à Annecy. Et ça fait depuis 1999 qu'on a démarré l'église, on appelle l'église ABBA, Assemblée biblique du bassin d'Annecy. Et on a notre bâtiment, on a maintenant un pasteur, et c'est pour ça que moi je peux partir. L'église m'envoie avec un jeune couple que je forme depuis 2 ans, qui sont actuellement aux États-Unis pour finir leur formation à Wheaton. Et puis, on a aussi une équipe que nous sommes en train de monter ici. Raphaël et Marion font partie. Merci pour ce que vous faites pour nous donner Raphaël et Marion. On est contents avec tout le travail et c'est juste le début. Mais j'ai aussi un stagiaire qui est ici avec nous, Mathieu Giral. Je vais inviter Mathieu à venir. J'aimerais bien qu'il explique un peu son rôle comme stagiaire et ce qu'il fait avec nous et pourquoi. Et vous connaissez déjà les stagiaires d'IBG, mais Mathieu, il est là pour 2 ans avec moi, donc je te laisse te présenter.
Merci Steve de ne pas m'avoir prévenu. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu, je suis originaire de Bordeaux, je suis à l'IBG, l'Institut biblique de Genève, depuis 2 ans. Et depuis cette année, donc, j'ai la chance et la joie d'être avec Steve à Annecy et puis après à Aix. Mon stage en 2 mots, je pense que Raph vous en a parlé et vous en parle depuis longtemps déjà, donc vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc on fait partie de l'équipe d'implantation d'église qui va implanter une église à Aix-les-Bains. Il y a un peu des gens partout dans le monde pour l'instant, mais le noyau dur, entre guillemets, du moment, c'est Steve et Donna, Thierry et Valérie, Raph et Marion et moi, et bientôt Myriam. Pour ceux qui connaissent Myriam qui est au feu à Grenoble. Donc là, on est dans la phase de recherche de ce qu'on appelle l'exégèse de la ville, où on collecte des informations qui nous aident à mieux comprendre la ville, mieux comprendre ses habitants, essayer de définir un peu la vision du monde des habitants d'Aix-les-Bains pour arriver à mieux leur parler, pour arriver à entrer en contact avec eux, et puis pour créer une église aussi qui soit proche d'eux. Donc là, on est dans la phase de réflexion du projet, où on définit, après avoir défini la philosophie du projet, on va un peu plus loin et on rend les choses un peu plus concrètes. Et je sais que votre église soutient Raph et Marion, mais aussi soutient le projet dans la prière. Je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce qu'on a besoin de vos prières, et vous rappeler, vous réitérer cette demande pressante de nous soutenir, parce que c'est vraiment un combat ce qu'on a là-bas. Merci beaucoup.
Merci Mathieu. Très bien dit. Les stagiaires sont là pour ça, n'est-ce pas? J'ai le droit de lui demander de faire n'importe quoi. Et s'il veut réussir son stage, il est obligé de le faire. En fait, ce matin, j'étais pas sûr, même au début du culte, ce que j'allais présenter ce matin, parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Mais selon quelques questions qui m'ont été posées, j'ai décidé de revenir à un texte de la Bible en Marc chapitre 3. Parce que l'église que nous allons démarrer à Aix-les-Bains, où nous commençons déjà, a besoin de refléter ce que nous croyons comme philosophie d'une église, ce que c'est l'église, ce que c'est les chrétiens, ce que c'est les disciples de Jésus-Christ. En fait, le ministère de Jésus consistait de deux choses. La partie enseignement et la partie action, les signes miraculeux. Et quand on regarde de près la vie de Jésus, on découvre que ces deux choses allaient toujours ensemble. Aujourd'hui, on a la tendance à séparer. On aime mettre l'accent sur des choses extraordinaires, etc. Et puis, on parle de Jésus. Mais les paroles et les actes de Jésus exprimaient la même réalité. Ils révélaient le royaume du ciel et ce que Jésus offrait comme vie pour ceux qui mettent leur foi en lui. Jésus montrait la vie que Dieu veut nous donner lorsqu'on donne notre vie à lui. Mais il faisait plus que parler du royaume. Il aussi montrait aux gens ce que ça voulait dire d'être vraiment un enfant de Dieu, un chrétien, ce que le royaume ressemble dans nos vies aujourd'hui. C'est ce que nous voulons faire à Aix-les-Bains, pas seulement parler de Dieu, mais de vivre d'une manière que les gens ont une image du royaume de Dieu ici sur cette terre. Il y a quelques années, le thème de notre église à Annecy était « Être les mains et les pieds de Jésus ». J'ai beaucoup aimé ce thème et ça m'a beaucoup appris personnellement. Nous avons cherché les moyens créatifs de faire du bien aux gens pour qu'ils voient le royaume et qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être Raphaël vous a déjà montré la vidéo que nous avons préparée pour le travail à Aix-les-Bains. Et au début de cette vidéo, il y a Thierry Miron qui parle. Et voici ce qu'il dit, je cite. « C'est par la présence de croyants nés de nouveau, fonctionnant localement comme un corps de Christ, que l'Évangile devient ordinairement visible et compréhensible. » Pour moi, ça veut dire tout simplement être les mains et les pieds de Jésus, là où nous vivons. Mais ça commence par avoir les sentiments de Jésus, sachant que le cœur de Dieu est touché par beaucoup de choses, mais surtout par ceux qui vivent dans le besoin, les gens qui sont vulnérables dans notre société. Je vous invite à lire avec moi quelques versets dans l'Évangile de Marc, au chapitre 3. À partir du verset 1. « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, « Lève-toi et mets-toi là au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Est-il permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire ?» On s'arrête là. C'est l'histoire d'une personne qui semblait peu important, très ordinaire, dans les yeux de tout le monde, sauf Jésus. Et pour bien comprendre cette histoire, il ne faut pas oublier une chose. Garder le sabbat était vraiment la marque qui distinguait le peuple juif. Ils avaient toutes sortes de choses dans la religion juive. La prière, le jeûne, les offrandes, les sacrifices. Mais de toutes les choses, le plus évident était l'observance du sabbat. Un bon juif observait le sabbat, le jour du Seigneur. C'était pas seulement le jour du Seigneur, c'était le jour du culte, d'adoration au Seigneur. Et l'idée était être et ne pas faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de travail. Une autre histoire dans ce texte ouvre avec Jésus en train de faire ce que toute personne spirituelle et engagée avec le Seigneur faisait. Il allait à la synagogue pour adorer le Seigneur, le culte. Un peu pourquoi vous êtes là ce matin, n'est-ce pas? Et justement, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est la marque aujourd'hui qui distingue le chrétien dans notre monde? Quand j'ai posé cette question dans notre église à Annecy, quelqu'un a dit « L'amour ». C'est ce que nous chantons, n'est-ce pas? Et ils sauront que nous sommes chrétiens par l'empreinte de notre amour, l'amour chrétien. C'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la vraie réponse. Ça devrait être la vraie réponse, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Quelle est la chose la plus évidente pour caractériser le chrétien dans notre société? Pour être honnête, il faut dire, c'est qu'on va à l'église. C'est ce que mes voisins pensent. Tous les dimanches matins, ils me voient sortir la voiture, 9h20, et partir avec la famille et revenir vers 13h, 13h30. Et puis, il y a toutes les réunions de la semaine aussi. Mais attends, est-ce que c'est ça, l'assistance à l'église et les réunions bibliques qui devraient définir le chrétien aujourd'hui, le disciple de Jésus? Est-ce que c'est ce que Jésus avait en tête lorsqu'il appelait les chrétiens, les disciples, le sel de la terre et la lumière du monde? Ce jour-là, il y a un homme à la synagogue avec une main paralysée. Franchement, c'est très probable, on ne connaît pas beaucoup de choses de cet homme, mais c'est très probable qu'il assistait tous les samedis. Ce n'était pas un inconnu, parce que c'était une petite synagogue, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs et des gens de passage. Donc, sans doute, c'était son habitude. On n'a pas de détails non plus de son handicap, si c'était de naissance ou si c'était à cause d'un accident. Mais en tout cas, on sait bien que sa condition n'était pas cachée, parce qu'il faisait partie du peuple juif, et les juifs, quand ils priaient, ils levaient les mains pour prier. Mais sans doute, les gens de la synagogue avaient tellement l'habitude de voir cet homme et son handicap, qui ne regardait plus l'homme et l'handicap. On sait aussi qu'il n'y avait pas seulement cet homme avec une main paralysée, mais il y avait aussi des critiques de Jésus. Vous savez, Jésus avait des ennemis. C'était les gens religieux, surtout les chefs religieux, qui cherchaient toujours à coincer Jésus. Et là, ils avaient une occasion extraordinaire. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais la loi juive donnait la possibilité de répondre aux urgences le jour du sabbat. Mais ici, dans cette histoire, cet homme n'était pas un cas d'urgence. Et un jour de plus, qu'est-ce que ça changerait de son handicap? C'est important. Quand Jésus lui demande alors à se lever, les chefs religieux, ils ont vu leur piège fermé sur Jésus. Ah voilà, il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais pourquoi justement Jésus demande à cette âme de se lever au milieu du culte? Est-ce que c'était pour gêner la personne? Est-ce que c'était pour exposer son handicap? En fait, moi, je crois pas que les gens voulaient voir son handicap. Ça ne met mal à l'aise, n'est-ce pas, de regarder l'handicap de quelqu'un. Et sans doute, selon leur foi et leur religion, beaucoup voyaient cet homme et son problème comme conséquence du péché. Mais quel obstacle pendant le culte, quel obstacle à l'adoration de faire lever quelqu'un pour montrer son handicap pendant le culte. Pourquoi? Je pense que Jésus veut que les gens voient et comprennent ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent en regardant cet homme. Parce que quand Jésus regarde les personnes, il voit toujours deux choses. Il voit le problème et il voit le potentiel. D'abord, le problème, l'handicap, une main paralysée. Ça veut dire qu'il a du mal à travailler. Ça veut dire, à la maison, ça doit être difficile. Il est limité. Ça veut dire aussi qu'à cause des idées de la société, il était plutôt mis à l'écart parce que c'est une honte. Les gens regardaient ailleurs quand ils regardaient cet homme. On ne regarde pas l'handicap de quelqu'un. Mais Jésus regardait au fond du problème de cet homme. Mais Jésus voyait en même temps le potentiel de cette personne. Voici quelqu'un créé à l'image de Dieu pour glorifier Dieu avec sa vie, comme nous tous. Jésus a vu, en regardant cet homme, tout ce qui était créé d'être et de faire. Est-ce que vous avez la tendance à regarder les gens de cette manière? Jésus voulait simplement enlever son handicap et la honte qui va avec. Quand Jésus regardait cet homme, il voyait le problème et le potentiel. Il voyait ce que la vie de cet homme était. Et il voyait en même temps ce qu'elle pourrait être si le royaume de Dieu est entré chez lui. Du côté pratique, mes amis, faire du bien, être les mains, les pieds de Jésus, commence ici, de voir les gens comme Jésus les voit, avec le problème et aussi ce qu'il pourrait être si Jésus entre dans leur vie. Il y a un film qui s'appelle « Le soloiste ». Et dans ce film, il y a un journaliste qui tombe sur un SDF dans un parc en train de jouer au violon. Au début, ça l'amuse. Et il regarde jusqu'au moment où il comprend que cet homme joue de la belle musique avec seulement deux cordes sur son violon. En lui posant des questions, il apprend son nom. Il s'appelle Nathanaël. Il apprend aussi que cet homme a étudié dans un grand conservatoire. Il apprend que cet homme a toute une grande histoire et qu'il a besoin d'amitié et non pas la pitié. Mes amis, chaque personne sur notre voie, tous les jours, a un nom. Il a une histoire, il a du talent, il a des dignités. Il n'existe pas de vaut rien dans les yeux de Dieu. Chacun a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous devons prendre le temps, alors, pour regarder, pour écouter, pour voir les gens et le potentiel, ce que Jésus voit quand il voit quelqu'un. En fait, nous n'avons pas l'idée dans l'histoire que cet homme était malheureux. Il avait un handicap. Mais ce n'était pas un mendiant. Il n'était pas à l'extérieur de la synagogue en train de demander de l'argent. Il faisait partie de la communauté. Il vient en culte, comme les autres, pour adorer Dieu. C'est juste que sa vie ne soit pas qu'elle tout ce qu'elle pourrait être. Et Jésus veut faire quelque chose pour enlever son handicap, pour l'aider. Vous voyez, voir les gens comme Jésus les voit et de penser à ce que leur vie ressemble et en même temps ce qu'elle pourrait ressembler si le royaume de Dieu est entré chez eux. Et maintenant, Jésus voulait que les gens sachent ce que ça veut dire être appelé enfant de Dieu, peuple de Dieu, dans ce monde. Ce que Dieu voit et ce que Dieu veut voir dans la vie des gens qui portent son nom. Par exemple, Jésus lui pose une question. Une question épineuse. Verset 4. Mais avant de lire la question, notez bien une chose. Je répète, il n'avait pas besoin de faire ce miracle ici, à ce moment même, dans la synagogue. Ce n'était pas une question de vie ou de mort. Il aurait pu attendre le soir pour éviter toute polémique, ou le lendemain, par exemple. Mais Jésus veut saisir le moment pour enseigner une vérité super importante, une vérité que nous devons apprendre. Et il pose cette question, verset 4. « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ?» Jésus lance un défi. Parce que tout de suite, on voit que la question sur le sabbat. Mais c'est beaucoup plus profonde que juste une question sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire le jour du sabbat. C'est vraiment une question concernant Dieu lui-même, le caractère de Dieu. Le sabbat était le jour du Seigneur. Alors, ces bons juifs, ils pensaient qu'ils devaient faire quelque chose que Dieu aime le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Comme prier, comme la louange, comme lire les textes de la parole de Dieu, comme faire le culte. Je me souviens quand j'étais jeune, j'étais orateur dans un camp chrétien pour les jeunes. On allait un dimanche matin à le réfectoire pour le petit déjeuner. On passait devant un terrain de mini-golf et les grandes portes étaient fermées avec une chaîne. Il y avait un jeune accroché au grillage devant le mini-golf. Et en passant, il a dit, « Monsieur, pourquoi c'est fermé le dimanche ?» Avant que je puisse répondre à ce jeune, il y avait un autre responsable d'un certain âge qui passait derrière moi, qui a dit, « Mon gars, c'est le jour du Seigneur. » Je regardais ce jeune. Il n'a rien dit. Mais je suis sûr qu'il a dû penser dans sa tête, pourquoi Dieu n'aime pas le mini-golf? En fait, moi je pense que Dieu aime beaucoup voir les jeunes jouer au mini-golf. Mais ça c'est un autre message. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que les gens à l'époque voulaient faire ce que Dieu aime. La prière, le culte, les choses religieuses. Et voilà pourquoi ils ont vu le sabbat de cette manière. Il faut faire ce que Dieu aime. Mais ils se sont trompés. C'est pourquoi Jésus veut qu'ils comprennent ce que Dieu aime vraiment. Les gens. Dieu aime les gens et leur bonheur par une relation avec lui. Dieu aime voir les gens avec une vie abondante, avec une raison d'être. Par la connaissance de Jésus dans leur vie. C'est ça que Dieu aime. C'est pourquoi Dieu a fait le sabbat, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est bon de faire du bien le jour du Seigneur. Même faire du bien est la raison principale pour le sabbat. Quelle leçon pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Pas ce qu'on doit faire ou ne pas faire le dimanche, comme j'étais enseigné quand j'étais jeune dans l'église. Mais plutôt ce que Dieu veut pour son peuple, ce que ça veut dire être disciple de Jésus, être chrétien dans ce monde, dans cette société, et de faire ce que Dieu aime. Parce que Dieu veut qu'on s'occupe des choses qui le préoccupent. Qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur? Les gens et leurs besoins. Les gens et leurs besoins. Être ses mains et ses pieds pour toucher la vie des gens sur notre chemin, jour après jour, tout simplement. Vous savez, il y a une église à New Jersey qui s'appelle Liquid Church, l'église liquide. Drôle de nom. En fait, il croit que l'église doit être fluide et non pas solide. Qu'elle doit être comme de l'eau qui coule de la source pour toucher et satisfaire le besoin des gens. Cette église, ils étaient troublés de savoir qu'il y a beaucoup de monde, surtout les enfants, qui meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Et ils étaient sûrs que Dieu était triste avec cette nouvelle aussi. Alors ils ont décidé de faire quelque chose. Une des choses qu'ils ont fait, ils ont annulé leur culte. En fait, ils n'ont pas vraiment annulé. Mais ils ont vraiment fait d'une manière très différente, qu'on n'aurait pas appelé ça un culte. Ils ont décidé de faire une course à pied de 5 km pour faire de l'argent, pour creuser les puits en Éthiopie. Ils ont décidé de le faire le dimanche, tout simplement parce que c'était le moment où il y avait plus de monde qui pourrait participer. Ils ont eu 1200 coureurs. 80% de ces gens n'étaient pas chrétiens, connaissaient pas le Seigneur. Ils ont gagné 250 000 dollars et avec cet argent, ils ont creusé les puits et ils ont sauvé la vie d'au moins 60 000 personnes. Je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est mieux le dimanche? Le culte dans un beau bâtiment où il fait chaud, il fait beau, où on est entouré d'amis? Ou une course à pied pour sauver la vie de 60 000 personnes. Peut-être vous dites, pourquoi pas les deux? Une deuxième question. Qu'est-ce qui est mieux? Être religieux ou être disciple et faire du bien aux autres au nom de Jésus? Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas demander aux responsables de l'église ici de faire une église liquide. Mais par contre, nous devons tous revoir et remettre en question ce que ça veut dire être le peuple de Dieu dans ce monde. Est-ce que ça veut dire assister au culte le dimanche matin et puis vivre ma vie en semaine comme j'ai l'habitude de faire? Qu'est-ce qu'on veut que les gens disent lorsqu'ils nous regardent, nous les chrétiens? On n'est pas content des fois d'entendre à la télé les émissions sur l'église évangéliste, comme ils disent toujours, ou l'église évangélique. Mais qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous? Je crois que nous devons commencer à voir les gens comme Jésus les voit, de faire pour eux ce que Jésus ferait, comme ses mains et ses pieds dans ce monde. Même si ces choses n'ont pas l'air religieuses selon ce qu'on a appris dans l'Église. Alors devant tout le monde, Jésus lui dit d'étendre sa main. Et il le fait. Et il est guéri. Et sa vie change pour le mieux. Ce n'était pas une question de vie ou de mort pour cet homme. Il n'était pas prêt à se suicider à cause de son handicap. Mais quand Jésus le voit, il veut l'aider. Il veut le bénir. Faire du bien aux autres veut dire voir les gens comme Jésus les voit, et puis de trouver les moyens pour les aider et les bénir au nom de Jésus. Bénir, j'aime beaucoup ce mot. Bénir veut dire accorder du bien. De dire ou de faire quelque chose qui aide quelqu'un. Tout de suite, j'ai une réponse quand j'ai parlé de ça une fois. Ouais, mais attendez, on n'est pas Jésus, hein? C'est vrai. Je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas guérir quelqu'un. Mais je peux le bénir en l'emmenant chez le médecin ou en apportant un plat chaud. Je ne peux pas ramener à mort. Mais je peux bénir les membres de la famille avec une écoute, avec des mots de gentillesse dans leur situation. Je ne peux pas multiplier du pain. Mais je peux, et j'ai déjà fait, donner une carte cadeau pour une grande surface, pour acheter les choses à manger, ou apporter même les choses à manger à quelqu'un dans le besoin. C'est en étudiant ces besoins que notre Église à Annecy a commencé un ministère qui s'appelle « Les amis de la rue », où au moins deux fois par mois, on fait manger, fait à manger les SDF dans la ville d'Annecy. Moi, je ne peux pas sauver les gens, c'est sûr. Je ne peux pas réparer les vies ravagées par le péché ou les mauvais choix. Mais je peux bénir les gens d'une centaine de manières différentes pour leur montrer un Dieu vivant qui vit en moi. Si seulement je prendrais le temps pour réfléchir et pour sortir de ma bulle religieuse. Il y a une autre église qui applique cette idée depuis des années. Parce que ce que je vous apporte, ce n'est pas nouveau. Hein. Mais cette église, ils font ça depuis longtemps. Par exemple, ils ont décidé, en été, quand il fait chaud, de distribuer les bouteilles d'eau fraîche aux gens, comme ça, dans la rue. Ils ont aussi des groupes qui font du jardin pour les gens, surtout les personnes âgées qui ont besoin d'aide. Ils vont même dans les stations, les petites stations de service pour nettoyer les WC. Voilà un travail. Ils distribuent les sacs de nourriture, ils font la lessive pour les gens. Et ils portent les petites cartes, comme celle-ci, marquées « Connecté ». Dieu est bon et il vous aime. Et il laisse ses cartes avec les gens. Ils ont même essayé d'offrir de laver les voitures gratuitement. Ça n'a pas marché, les gens ils avaient peur, rien de gratuit, vous savez. Donc ils ont pris un parking dans une grande surface. Et à l'entrée ici, il y avait un jeune qui avait un panneau pour laver les voitures, $1. Les voitures arrivaient, ils ramassaient le dollar. Les jeunes lavaient les voitures et à la sortie de l'autre côté, un autre jeune donnait une carte connectée avec le dollar. Une façon de faire gratuitement. Et peut-être ce matin, vous dites, mais tout ça c'est ridicule quand même. C'est pas ça l'Église. Peut-être. Mais vous savez, cette Église que je viens de décrire, ça fait 20 ans qu'ils font ça. Et vous pouvez aller où vous voulez dans cette ville. Et vous ne pouvez pas trouver quelqu'un, ou très peu au moins, qui n'ont pas été aidés et bénis par les chrétiens, qui n'ont pas reçu un jour ou l'autre une carte connectée. Même le pasteur de cette église faisait une sortie avec ses jeunes pour un rassemblement de jeunes dans toute la ville, de plusieurs églises. Et il y avait un autre responsable d'une autre église qui parlait ce soir-là et racontait qu'autrefois, il était drogué, SDF, il dormait dans la rue. Quand quelqu'un est venu un jour pour offrir une tasse de café, il a discuté un peu avec lui et en partant, il a laissé une carte connectée. Il a dit que pendant plusieurs années, il a ramassé toute une collection de cartes connectées. Et un jour, au dos, il regarde l'adresse de cette église. Il est allé. Il a entendu parler des groupes de maisons et quelqu'un a invité dans leur groupe et il a donné sa vie à Jésus. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin d'être théologien, d'avoir fait 3 ans à IBG ou 4 ans. Tout ce que vous devez faire, en fait, est d'ouvrir les yeux pour voir les gens comme Jésus les voit. Et puis, agir avec ce que vous avez. Moi, j'aime beaucoup l'histoire quand Jésus a fait à manger pour les 5000 hommes. Vous connaissez cette histoire. Ce qui est super dans cette histoire, c'est de voir les disciples. Parce qu'ils étaient partis pendant des semaines pour aller porte à porte, deux à deux, avec le message du royaume de Dieu. Ils sont revenus, ils étaient fatigués. Jésus les voit et dit, allez à l'autre bout du lac, là, et on va se reposer. Ils montent dans la barque, ils partent pour l'autre côté. Malheureusement, la foule, regardez le bateau, et ils sont allés, et ils étaient là quand ils arrivent. Et en descendant du bateau, c'est marqué dans le texte que Jésus voyait les âmes comme les brebis sans berger. Alors, plus tard, les disciples disent à Jésus, « Mais il faut le renvoyer pour qu'il mange. » Et Jésus dit, « Mais faites quelque chose vous-même. Quoi » Quoi ? Et ensuite, Jésus dit, « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Jésus savait très bien, ils n'avaient rien. Il les a envoyés deux à deux et il a dit de rien prendre. Donc ils sont là, ils n'ont rien et Jésus dit, qu'est-ce que vous avez pour les aider? Et souvent, on est comme eux. Jésus voit les brebis sans berger. C'est pitoyable, les brebis sans berger. C'est comme des gens dans un bus sans chauffeur. Une équipe de foot sans gardien. Et puis, eux, ils voient quoi ? Un troupeau de vautours affamés, il faut les renvoyer. Et Jésus dit, non, faites-le vous-même. Pourquoi ? Parce que Jésus, ce jour-là, a montré aux disciples ce qu'il voit quand il voit les gens. On est trop souvent comme des disciples qui regardent les gens autour de nous comme des vautours affamés. Mais Jésus voyait des brebis perdues. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de gens autour de nous chaque jour. Des fois, ça nous agace. Ils ont des besoins. Et on dit, on n'est pas là comme pour faire du bien à tout le monde. À tout instant. Mais trop souvent, Seigneur, c'est parce que nous voyons les choses comme les âmes et nous ne cherchons pas à regarder avec tes yeux, de voir ce que tu vois. Nous prions que tu changes notre opinion de ce que c'est un chrétien, un disciple de Jésus dans ce monde. Que nous soyons prêts à être disponible pour être tes mains et tes pieds dans le monde où nous sommes et vis-à-vis des gens qui nous entourent. Merci Seigneur pour cette Église, pour le témoignage que cette Église vit dans cette ville de Grenoble. Et nous prions que chaque chrétien ici ce matin puisse partir avec le désir cette semaine d'être tes mains et tes pieds. Au nom de Jésus, amen.